Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du mardi 22 mars 2016. Morgane Guériec et Anne Albertson en votre compagnie. Au sommaire ce matin.
Au Mali, attaque contre la mission militaire de l'Union européenne. Un assaillant tué à Bamako.
Les forces en présence ont commencé des opérations de ratissage dans les alentours de l'hôtel en question.
Présidentielle au Niger, la CENI devrait annoncer les résultats ce mardi.
Quelles que soient les divergences, il faudrait bien que les acteurs nigériens en arrivent à se parler, à une certaine concertation, parce que l'objectif étant la paix.
Le Congo-Brazzaville attend aussi les résultats du premier tour de la présidentielle. 5 candidats de l'opposition mettent en place une commission technique électorale parallèle.
Au Tchad, arrestation de Mahamat Nour Ibedou, militant contre un 5e mandat du président Idriss Déby.
En République démocratique du Congo, les Maïmaï de Bakata Katanga se disent prêts à déposer les armes.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Présidentielle au Niger, la CENI devrait donc annoncer ce mardi les résultats du second tour de l'élection de dimanche. En attendant, les observateurs internationaux de la CDAO, de l'Union africaine et des Nations unies, entre autres, encouragent les acteurs politiques nigériens à privilégier le dialogue. Hier soir, ils se sont surtout félicités du bon déroulement du scrutin. On écoute Mbari Calixte Aristide, chef de mission de l'Union africaine.
Bien évidemment, comme toute œuvre humaine, rien n'est parfait. Quelques difficultés ont été relevées, notamment l'ouverture tardive, légèrement, il faut le dire, dans certains bureaux de vote, qui est due au fait que peut-être le matériel a été servi légèrement en retard, je dis dans quelques bureaux de vote, mais également le fait que certains membres du bureau de vote n'étaient pas arrivés à temps pour commencer. Et comme vous avez pu constater, la mission a estimé que ce retard est très très léger, entre 8h et 8h30. L'essentiel, vous savez, étant que la paix et la cohésion sociale soient le leitmotiv, n'est-ce pas, dans ce pays. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les divergences, il faudrait bien que les acteurs nigériens en arrivent, n'est-ce pas, à se parler, à une certaine concertation, parce que l'objectif étant la paix et la concertation pour le bien du Niger et de son peuple.
C'était Mbari Calixte Aristide, chef de mission de l'Union africaine au Niger.
Élection présidentielle au Congo. Dans l'attente des résultats, 5 candidats de l'opposition mettent en place une commission technique électorale parallèle. Ils ont signé un accord pour contrer le président Sassou Nguesso dans le cas où un second tour aurait lieu. Le point avec Eddy Sango.
Toujours pas de résultats alors que le pays était coupé du monde 2 jours durant. Le gouvernement a évoqué des raisons de sécurité et de sûreté nationale visant à empêcher l'opposition de publier des résultats illégaux. Malgré tout, l'opposition s'organise. Elle compile ses résultats parallèlement à ceux de la Commission nationale officielle, la CNI. 5 de ses candidats ont créé leur propre commission technique électorale. Guy-Brice Parfait-Kolelas, Jean-Marie Michel Mokoko, Claudine Mounari, André Okombi Salissa et Pascal Tsatsimabiala ne font plus confiance à la CNI. Ils veulent de ce fait surveiller les déroulements du vote. Partis en ordre dispersé lors du premier tour du dimanche dernier, les 5 candidats de l'opposition se sont engagés dans un pacte électoral contre M. Sassou Nguesso. Ils se sont fait la promesse de soutenir celui d'entre eux qui arriverait au second tour pour faire barrage au président sortant. Avant les scrutins, ils avaient jugé que les conditions n'étaient pas remplies pour des élections sincères, crédibles et transparentes. Dédaignant pour autant de boycotter les scrutins, ils ont appelé le peuple à exercer sa souveraineté au cas où Sassou Nguesso l'emporterait dès les premiers tours, comme il l'a promis à ses partisans. Le gouvernement a jugé ces appels insurrectionnels, craignant des violences post-électorales. Les Nations Unies avaient appelé jeudi toutes les parties au calme.
Attaque contre le quartier général de la mission militaire de l'Union européenne au cœur de la capitale malienne. Bilan, un assaillant tué. Les terroristes ont d'ailleurs été repoussés par la garde de sécurité de la mission. Cette attaque est la 2e dans le quartier des affaires de Bamako. Les précisions de notre correspondant Kassim Traoré.
Hôtel Azalaï Nord-Sud de Bamako, quartier général de la mission de formation militaire de l'Union européenne au Mali. C'est cette mission chargée de la formation des soldats maliens qui a été attaquée par des assaillants. Ils ont été repoussés par des gardes tchèques de l'EITM. L'un des assaillants a été tué alors que la mission militaire de formation n'a enregistré aucune victime ni blessé. Un autre assaillant de cette attaque s'était retranché dans un bâtiment non loin de l'hôtel qui abrite la mission de formation de l'Union européenne. Ce sont les échanges de tirs entre ces derniers et la garde de l'EITM qui a attiré l'attention de bon nombre de Bamakois. Après un point de la situation très tard dans la nuit, les forces en présence ont commencé des opérations de ratissage dans les alentours de l'hôtel en question. Il faut rappeler que le quartier des affaires de Bamako est à sa deuxième attaque terroriste après celle du 20 novembre 2015 à Radisson Blue qui avait occasionné la mort d'une vingtaine de personnes, dont des étrangers. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et au Mali toujours, sachez que le forum de Kidal, qui devrait avoir eu lieu, qui aurait dû avoir eu lieu du 27 au 30 mars, a été reporté. Il devrait être organisé par les ex-groupes armés de la CMA et de la plateforme, mais il y aurait eu des incompréhensions quant à la présence du gouvernement malien à cette rencontre dans cette ville qui n'est pas sous contrôle du pouvoir central de Bamako.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'alliance avec Israël est un enjeu dans la course à la Maison-Blanche. La candidate démocrate Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump se sont affrontés hier à propos de l'État hébreu devant AIPAC, un puissant groupe de pression juif américain. La sécurité d'Israël n'est pas négociable, a déclaré Mme Clinton. De son côté, Donald Trump a présenté Israël comme étant la seule démocratie du Moyen-Orient. Il a également qualifié de catastrophique l'accord sur le nucléaire iranien. Un peu plus tôt dans la journée, le candidat républicain avait fait savoir sur CNN qu'il reconnaîtrait Jérusalem comme la capitale d'Israël s'il était élu président des États-Unis. Il faut dire que les États-Unis comptent au moins 5 millions de Juifs, un électorat que l'on dit souvent acquis au camp démocrate.
Et suite ce mardi de la visite historique du président Barack Obama à Cuba, au menu de ces entretiens, la normalisation des relations entre leurs deux pays, les rapports économiques, mais aussi les questions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
Lors d'une conférence de presse conjointe lundi à La Havane, le président Raúl Castro a félicité son homologue américain pour les efforts consentis en vue de rétablir les relations diplomatiques entre leurs deux pays. Il l'a encouragé à faire plus pour que l'embargo américain contre Cuba soit levé.
El bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico.
L'embargo reste le plus grand obstacle à notre développement économique et au bien-être du peuple cubain. C'est pourquoi sa levée sera essentielle à la normalisation des relations bilatérales.
Le président cubain a nié l'existence de prisonniers politiques dans son pays. Pour sa part, le président Obama a salué un jour nouveau dans les relations entre Cuba et les États-Unis. Il a promis de continuer d'œuvrer à la levée de l'embargo, mais aussi de parler de l'état des droits de l'homme à Cuba.
Ainsi que nous le faisons partout où nous nous rendons dans le monde, j'ai dit clairement que les États-Unis continueront de s'exprimer au sujet de la démocratie, y compris le droit du peuple cubain de déterminer lui-même son avenir. Je m'exprimerai au sujet des droits universels, y compris la liberté d'expression, la liberté d'association et de religion.
Barack Obama se dit impatient de rencontrer ce mardi les leaders de la société civile cubaine, les jeunes, les milieux d'affaires, de même que les dissidents. Un projet qui, selon la Maison-Blanche, ne plaît pas tellement au gouvernement cubain.
La présidente brésilienne était suspendue hier aux travaux des députés qui examinaient la demande de destitution pesant sur elle. Dilma Rousseff, qui dénonce une tentative de coup d'État institutionnel, fait face à un scandale de corruption. La procédure porte sur des accusations de maquillage de comptes publics pour dissimuler l'ampleur des déficits et favoriser la réélection de Mme Rousseff en 2014. Des manifestants anti-Rousseff faisait dans la soirée le siège du palais présidentiel. Dans le même temps, son mentor et prédécesseur, l'ex-président Lula, cherchait à se prémunir en justice contre un éventuel placement en détention.
Le Hezbollah libanais entend continuer le combat auprès du régime syrien de Bachar al-Assad jusqu'à la défaite des djihadistes de l'État islamique et de la branche d'Al-Qaïda. C'est ce qu'a fait savoir le chef du parti chiite Hassan Nasrallah sur la chaîne Al-Mayadin. Tout ce qui se dit à propos de notre retrait de Syrie est, en ce moment est faux, a-t-il assuré. Rappelons que le Hezbollah a envoyé des milliers de combattants depuis 2013 pour soutenir Damas, estimant ainsi mener une guerre préventive pour écarter la menace djihadiste du Liban. Si la Syrie tombe aux mains de Daesh et d'Al-Nusra, c'en est fini de la Syrie, c'en est fini du Liban, a poursuivi Hassan Nasrallah.
Enfin, attentat de Paris, nouvelle progression dans l'enquête avec l'identification d'un complice. Il s'agit de Najim Lachraoui, dont l'ADN a été retrouvé sur du matériel explosif utilisé le 13 novembre. Âgé de 24 ans, il était connu jusqu'à présent sous une fausse identité. Il est activement recherché, a précisé lundi le parquet fédéral belge qui a diffusé des photos. Lachraoui, qui était parti en Syrie en février 2013, a été jugé par défaut en février à Bruxelles dans le procès d'une filière de recrutement de combattants pour la Syrie et une peine de 15 ans de prison a été requise à son encontre.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg. L'agence américaine OPIC ouvre un bureau à Abidjan. Une annonce faite par sa directrice, Elizabeth Littlefield, en marge du 4e Africa CEO Forum, organisé dans la capitale ivoirienne. Elizabeth Littlefield qui précise que l'ouverture de cette antenne africaine vient répondre aux besoins d'accompagnement des firmes américaines qui s'intéressent de plus en plus aux investissements dans le secteur énergétique. Filiale d'Equatoussi, compagnie qui était jusqu'ici spécialisée dans les vols privés, Fly Caminter a annoncé le début de ses vols domestiques au Cameroun pour le 27 mars prochain. Cette société qui dispose de 2 avions desservira dans un premier temps les villes de Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua dans l'extrême nord. Le tourisme a généré en Éthiopie plus de 1,7 milliard de dollars de recettes au cours des 6 derniers mois, selon les chiffres du ministère de la Culture et du Tourisme. Des recettes en augmentation de 15% par rapport à l'ensemble du chiffre d'affaires de la période et qui proviennent de plus de 470 000 touristes étrangers.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Claire. On passe au sport avec Nicolas Pineau. Football, rappelé en sélection ivoirienne pour la double confrontation face au Soudan en éliminatoire de la CAN 2017, Yaya Touré va devoir renoncer. Le milieu de terrain s'est blessé dimanche avec Manchester City. Le joueur a ressenti une douleur au talon face à Manchester United. Et Nicolas, l'argent chinois dans le football mondial ?
La Chine a davantage de chances d'accueillir la Coupe du Monde de football grâce au parrainage de la FIFA par le conglomérat chinois Wanda. C'est ce qu'a déclaré le président de ce groupe spécialisé dans l'immobilier et le divertissement. Wang Jianlin a déclaré que la décision de devenir un sponsor de premier plan de la FIFA accroîtra les chances de la Chine de remporter l'organisation de la Coupe du Monde si le gouvernement chinois décide de poser une candidature. Monsieur Wang, on rappelle, est l'homme le plus riche de Chine selon un classement établi par Bloomberg qui prédit même que 3 nouvelles entreprises chinoises deviendront d'importants sponsors de la FIFA d'ici fin 2016.
Et pour finir, la NBA, championnat de basket nord-américain, voilà les résultats de la nuit. Les San Antonio Spurs ont perdu face aux Charlotte Hornets, 88-91. Défaite des Denver Nuggets face à Cleveland Cavaliers, 91-124. Philadelphie a perdu face à Indiana Pacers, 75-91. Memphis Grizzlies s'impose face aux Phoenix Suns, 103-97. Orlando Magic perd face aux Boston Celtics 96-107. Défaite des Milwaukee Bucks contre Detroit Pistons 91-92. Les Golden State Warriors l'emportent face aux Timberwolves du Minnesota 109-104. Et enfin, les Sacramento Kings ont perdu face aux Chicago Bulls 102-109.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerrier en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale ce matin, le Bénin. Et victoire sans appel de l'homme d'affaires Patrice Talon au second tour de l'élection présidentielle. Selon la commission électorale, il a obtenu 65,39% des voix contre 34,61% pour Lionel Zinsou, le Premier ministre sortant. Ce dernier a même appelé son adversaire dès dimanche pour le féliciter. Le dénouement rapide de ce scrutin tranche avec les controverses que suscitent trop souvent les résultats électoraux en Afrique. Timothée Donongmaï a recueilli l'analyse de Maître Sadiq Pou Alao, président du groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social, GERDES Afrique.
Peut-être que du point de vue des résultats, on ne s'attendait pas à ce que l'écart entre les deux candidats soit aussi important, mais que le vaincu accepte sa défaite. C'est quelque chose à quoi il faut s'attendre dans la mesure où nous avons affaire quand même à un Premier ministre très bien élevé et qui connaît les bonnes règles de la société démocratique. Donc il ne pouvait pas en être autrement. C'est tout à fait normal que, s'étant rendu compte qu'il avait perdu les élections, il reconnaisse et félicite rapidement son adversaire. Donc il n'y a rien d'étonnant quand on connaît le personnage, en tout cas du Premier ministre, qui est, comme certains le disent, de culture occidentale.
Patrice Talon a été soutenu par la coalition de la rupture. Dans quelle mesure pourra-t-il apporter la rupture au Bénin?
Oh, ben ça, c'est une autre paire de manches. Je crois que c'est à l'exercice qu'on verra s'il y a vraiment rupture. Parce que c'est pour la plupart des gens qui étaient déjà aux affaires. Donc, ce ne serait pas étonnant que la rupture soit plutôt une rupture avec les pratiques de Yayi Boni, qu'une rupture avec les traditions que nous connaissons à notre monde politique.
Quels sont les défis qui attendent le prochain président du Bénin?
Il y a d'abord des problèmes institutionnels, parce que les institutions permettent toutes sortes d'abus, sinon les hommes d'affaires ne se verraient pas au pouvoir. Le Bénin, avec ses institutions, ne connaît pas le renforcement de la gouvernance et surtout, nos institutions sont très fragiles. Je crois que c'est la première chose à corriger. Et puis, le problème le plus sérieux, ça va être les problèmes de développement qui vont se poser parce que le problème du sous-emploi est très important dans le pays et les grands projets qui doivent créer des emplois, il faut trouver les moyens de les réaliser. Ce n'est pas du tout évident avec un peu la configuration que nous avons actuellement. Mais il faudra faire beaucoup d'efforts. On espère que ceux qui ont des relations sur le plan du financement international, comme le Premier ministre Zinsou, se mettront à contribution pour faire en sorte qu'au-delà des élections, le Bénin continue de survivre.
Maître Sadiko Alao, président de GERDES Afrique, joint à Cotonou. À la Cour pénale internationale, hier, Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de la RDC, ancien chef du mouvement de libération du Congo, a été reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour des actes perpétrés par les rebelles du MLC entre 2002 et 2003 en Centrafrique. Il faudra encore quelques semaines pour connaître la sentence qui lui sera réservée. Pour une réaction à ce verdict, Idriss Fall a joint à Kinshasa Alexis Tambwe Mwamba, ministre congolais de la Justice.
La République démocratique du Congo a pris acte de cette condamnation par la Cour pénale internationale. Nous ne sommes pas partis à ce procès. M. Bemba est poursuivi pour des faits qui se sont passés non pas au Congo, mais en République centrafricaine. Nous avons simplement pris acte. Nous n'avons pas d'autres commentaires sur cette décision de la Cour.
Kinshasa n'a joué aucun rôle dans son arrestation?
Kinshasa n'a absolument joué aucun rôle. Et je pense que les premiers conseils de M. Bemba se sont fourvoyés en voulant politiser l'affaire, en voulant faire passer M. Bemba comme un prisonnier de Kabila, ce qui n'en est strictement rien. Le président Kabila n'est pas intervenu dans ce dossier. C'était un dossier de procureur contre M. Bemba pour des faits qui se sont passés en dehors du Congo. Donc ce procès ne nous concerne pas. Nous avons pris acte, c'est un de nos compatriotes, mais nous n'avons aucune un point de vue quelconque sur cette question-là. Nous n'étions pas partis au procès.
Mais vous-même, vous étiez membre du MLC, vous l'avez même représenté aux discussions de Pretoria. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir votre ancien leader dans un mouvement rebelle être condamné de crimes contre l'humanité?
Mais tout à fait, j'ai eu à donner des conseils il y a 8 ans à ceux qui ont été les secrétaires généraux du parti, lorsque M. Bemba a commencé à avoir ses amis. J'ai dit aussi bien à celui qui était secrétaire général à l'époque quand il a été appréhendé, qu'à celui qu'il avait suivi, que la ligne de défense qui avait été adoptée n'était pas la bonne, qu'à partir du moment où ce conseil avait voulu privilégier l'aspect politique et non pas l'aspect pénal de la chose, et aller en profondeur dans le dossier pour pouvoir examiner point par point les arguments du procureur et développer des contre-arguments, c'était une fausse piste. Et qu'il risquait effectivement, disons, d'être condamné. Je l'ai dit il y a 8 ans à celui qui était secrétaire général du parti MLC à l'époque. Je l'ai dit également à celui qui l'a remplacé par la suite. Et si un jour vous le rencontrez, ils vous diront que j'avais prévu effectivement le verdict de ce jour.
Alexis Tambwe Mwamba, ministre congolais de la Justice.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Tchad, arrestation de Mahamat Nour Ibidou, un des principaux animateurs de la plateforme des organisations de la société civile, hostile à un cinquième mandat du président Idriss Déby. Idi Sango a joint N'Djamena Younonis Mahadjir, porte-parole de Sassoufi, un autre mouvement citoyen de la plateforme.
Nour a été appelé, nous étions ensemble vers 14h par un responsable de la police qui lui a demandé de venir pour écouter sur une question dont ils l'ont déjà traité. Et c'est comme ça qu'il est parti là-bas. On lui signifie que c'est pour une autre affaire qu'on l'a appelé et qu'il doit répondre à... Et
dans quelles conditions se trouve aujourd'hui Mahamat Nour?
C'est illégal. On ne devait pas arrêter quelqu'un qui a tout simplement manifesté, qui dit qu'il ne veut pas que le président soit candidat et que il veut plutôt que ce président ne se porte pas candidat pour des raisons qui sont claires là-dessus et dont la Constitution a bien raison de pouvoir les dénoncer.
Sassoufi, mais aussi d'autres organisations de la société civile ont appelé à un certain nombre de manifestations. L'arrestation de Mahamat Nour ne vous intimide-t-elle pas?
Ah non, loin de là. La société civile, les membres de la société civile, qu'il s'agisse des organisations de droits de l'homme, des syndicats et autres, qui sont engagés à dire non à la mauvaise gouvernance de Déby, sont engagés jusqu'au bout. Et l'intimidation, si ça nous faisait peur, là, on l'aurait déjà stoppé. On n'aurait pas continué jusqu'à là. Les intimidations, elles sont légion. Et nous pensons que nous sommes engagés et comme vous venez de vous dire, Déby peut arrêter tout ce qu'il veut arrêter, mais il y aura d'autres Tchadiens qui vont s'élever pour dire non et puis un jour Déby partira par la force de la détermination de ceux qui n'ont pas d'armes comme nous autres, ceux qui n'ont pas du tout des moyens pour pouvoir lever, mais seulement leur volonté et leur engagement et surtout l'adhésion de la population qui a été démontrée déjà lors de notre ville morte. Vous savez, la manifestation, ce n'est pas le coordonnateur ou le porte-parole seulement qui l'organise. C'est toute la population en général. Vous avez suivi sans doute notre appel à la ville morte. C'était toute la population tchadienne qui a répondu. Donc, qu'on arrête ces principaux porte-parole. Il y aura d'autres porte-parole, d'autres Tchadiens qui vont se présenter, ils vont être porte-parole parce qu'ils vont continuer à arrêter. Un jour, les prisons vont se remplir et puis je pense qu'ils se passent.
Younonis Mahadjir, porte-parole du mouvement citoyen, ça suffit.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Cap sur le Katanga en République démocratique du Congo. Les Maïmaï Bakata Katanga se disent prêts à déposer les armes. Le groupe s'est même transformé en parti politique. Pourtant, sur le terrain, le désarmement n'est pas si simple et nombreux sont ceux qui redoutent une attaque des rebelles sur la ville de Lubumbashi. Le point sur place avec Narval Mabila.
Le groupe Maïmaï du grand chef de guerre Gédéon Kyungu Mutanga, qui fut condamné par la Cour d'ordre militaire pour plusieurs chefs d'accusation, mais alors qu'il périgeait sa peine, il s'évada spectaculairement dans la prison de sécurité La Kasapa en septembre 2011, vient de transformer son mouvement en parti politique MIRA, mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains. Aujourd'hui, il est prêt à déposer les armes selon l'appel du gouvernement à un désarmement volontaire. Et cela en date du 23 mars, qui rappelle l'entrée spectaculaire de Bakata Katanga. Ils se sentent bloqués et piégés malgré leur volonté de se rendre aux autorités. Explication du pasteur Nicolas Mbayo, secrétaire général chargé de la politique et du développement.
Le gouvernement jusqu'à présent ne donne pas l'itinéraire là où les enfants doivent déposer les armes. Pendant que nous avons envoyé le représentant de notre mouvement, c'est-à-dire du parti politique à Kinshasa qui est Thierry Mukelekele, il a rencontré le gouvernement national, il a rencontré la MONUSCO, il les avait donné la date du 23 mars que le président de MIRA Kyungu Mutanga Gédéon, il n'est plus un homme de guerre, mais c'est un président du parti politique et on va sortir pour déposer les armes. Le gouvernement a lancé le programme de désarmement dans les grands Katanga de mars jusqu'au mois de juin. Lors de leur passage, ceux qui sont les ennemis de la paix, qui ne veulent pas que ces enfants déposent les armes, ils sont allés voir donc des chefs de localité. Il s'agit de chef Katumba, oui, du chef Katumba et son ami, pour venir informer à l'autorité militaire que ses enfants sont en train de venir pour attaquer la ville de Lubumbashi. Parce qu'ils ne veulent pas que ses enfants déposent les armes. Les ennemis de la paix sont en train de mentir les chefs de l'État.
Du côté des autorités politiques de la province du Haut-Katanga, il n'y a pas de blocage et le programme de désarmement volontaire du gouvernement est en marche et se poursuit avec succès. Malgré les rumeurs d'une éventuelle attaque de la ville de Lubumbashi, le commissaire spécial Félicien Katanga, que nous avons joint par téléphone, j'explique.
Laissez-moi vous dire que l'état-major provincial de l'armée est entièrement impliqué dans ce processus de désengagement. Ce n'est pas la dernière rumeur que nous voyons sur Lubumbashi.
Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Au Gabon, un ancien premier ministre d'Ali Bongo se lance dans la course à la présidence. Raymond Dong Sima, qui a dirigé le gouvernement entre 2012 et 2014, a officiellement annoncé sa candidature. Il dénonce notamment ce qu'il qualifie de dérive dans la politique économique et sociale menée par l'actuel gouvernement. Les détails avec notre correspondant à Libreville, Jean Rovis d'Abeni.
Depuis son départ du gouvernement en 2014, il s'est toujours refusé d'évoquer directement une éventuelle candidature à la présidentielle. Désormais, c'est chose faite. Devant près d'un millier de sympathisants et anciens camarades passés eux aussi dans l'opposition, Raymond Dong Sima a critiqué sans concession les dérives dans la gestion économique et sociale de l'actuel gouvernement, sans s'en prendre directement au président et candidat Ali Bongo.
Ça doit être, je suis là, est-ce que mon enfant va mieux à l'école? Oui. Est-ce que ce soit mieux? Oui. Cette question n'est ni pour ni contre Ali Bongo. Elle n'est ni pour ni contre Dong Sima. C'est une question objective et chacun doit se la poser en conscience.
Dans un discours qui s'est voulu en rupture avec le système auquel il appartenu, il a promis de mettre fin à l'actuelle constitution, selon lui taillée sur mesure par un homme et pour un homme.
Les dispositions constitutionnelles ne sont pas respectées. Le Premier ministre a des pouvoirs écrits dans la constitution, il n'en voit pas la couleur. Peut-être qu'il faut supprimer la fonction du Premier ministre et dire que le président n'a qu'à avoir la plénitude des pouvoirs. Mais dans les pays où le président a la plénitude des pouvoirs, c'est-à-dire un régime présidentiel pur, le président est exposé à la censure directe du Parlement.
Tout comme ceux qui l'ont fait avant lui, Raymond Dong Sima s'est engagé à opérer une réforme de la fonction publique et une réorganisation de la justice.
L'absence de contrôle, c'est ça qui nous fait le plus de tort. Le contrôle, ce n'est pas seulement un facteur répressif. Les gens ont tendance à croire que contrôle signifie répression. Mais quand vous regardez bien les pays qui marchent bien, ils ont des mécanismes de contrôle qui leur permettent à chaque fois de s'auditer et de voir ce qui n'a pas marché, de remettre ça dans le circuit et de recommencer en améliorant l'exécution de leurs opérations.
Homme affable, à la taille et à la corpulence imposante, issu de l'ethnie majoritaire Fang, ce candidat de la jeunesse et de la justice sociale, selon ses dires, n'est pas considéré comme un favori, mais demeure un soutien des Thaï. Week-end également mouvementé côté pouvoir qui a organisé des grands rassemblements dans la capitale gabonaise. Le président candidat s'est à nouveau posé comme le meilleur parmi ses adversaires.
Nous sommes, nous seuls, les candidats du véritable changement. Changement pour offrir, comme les jeunes viennent le dire, un avenir meilleur à la jeunesse gabonaise.
Mais même s'il devait compter sur les moyens de l'État pour battre campagne, Ali Bongo sait que son principal challenger sera son ancien beau-frère, Jean Ping. Cet ancien diplomate et ancien président de la Commission de l'Union africaine est le seul à avoir sillonné tout le pays pour expliquer sa rupture avec le parti fondé il y a 48 ans par Omar Bongo. La date de la présidentielle n'est pas encore connue, mais les candidats se bousculent déjà au portillon. Au total, 7